constate qu'aujourd'hui, les marchés jouent un rôle dominant dans l'économie nationale, européenne, mondiale, que ces marchés sont en grande partie à l'origine de la crise financière qui a démarré en 2007 hein, aux États-Unis, mais qui ensuite s'est répandue dans le monde entier, et que les gouvernements, face à ces marchés, les autorités monétaires, les banques centrales, ont une politique qui consiste plutôt à rassurer les marchés, c'est-à-dire à tout faire pour que ceux-ci se comportent bien de leur point de vue, par exemple qu'ils ne spéculent pas, qu'ils n'attaquent pas les monnaies ou les dettes publiques. On s'aperçoit que ces politiques n'ont pas vraiment beaucoup de succès, ou qu'au contraire, elles ont des conséquences tout à fait néfastes sur les populations, puisque par exemple en Europe, eh bien c'est ça qui nous conduit tout droit à des politiques d'austérité pour rassurer les marchés sur les dettes publiques et sur les dépenses publiques. Et donc nous disons, ça c'est pas la bonne politique, c'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut arrêter les crises, si on veut arrêter d'être dominé par les marchés sous leur coupe, eh bien il faut au contraire les désarmer. Alors les désarmer, comment ? Bien sûr, c'est toute la question. Eh bien nous pensons qu'il est, il y a des moyens, des instruments pour le faire. Attaque est née avec la taxe Tobin, la taxe sur les transactions, sur les monnaies. Maintenant, nous parlons d'une taxe sur les transactions financières, sur l'ensemble des transactions financières, sur les marchés de titres, par exemple. Idée qui est reprise, d'ailleurs, par un certain nombre de gouvernements, dont le nôtre, hein, sans qu'on soit convaincu qu'ils veuillent vraiment l'appliquer. Mais enfin, l'idée, aujourd'hui, a fait son chemin. Nous voulons aussi que les grandes banques, par exemple, qui sont aujourd'hui les acteurs dominants de la finance internationale, eh bien, soient neutralisées dans leur capacité à mener la spéculation. Et par exemple, l'idée serait que on devrait couper les banques, en tout cas séparer leur activité traditionnelle et utile qui est de faire des crédits et de collecter des dépôts des entreprises, des particuliers, de l'activité de spéculation qui s'est développée de plus en plus et qui aujourd'hui est au cœur de la crise et d'instabilité. Donc séparer ces deux types d'activités pour ne garder, surtout ne privilégier que la première. Donc voilà une deuxième proposition. Les gouvernements, notamment dans le cadre du G20 qui existe depuis 2008, ont reconnu ce genre de problème, ont reconnu qu'il y avait un problème avec des banques qui étaient trop grosses, qui spéculaient trop, qui prenaient trop de risques, mais aucune mesure sérieuse n'a été prise. Et donc nous disons, il faut arrêter maintenant, il faut passer à l'acte, il faut vraiment appliquer des politiques rigoureuses pour désarmer les marchés et d'une part empêcher ceux-ci de nuire et donc d'avoir la capacité de spéculer, de déstabiliser les économies, mais aussi notre idée fondamentale, c'est en quelque sorte de remettre la finance au service de l'économie de la société, alors qu'aujourd'hui c'est l'inverse. C'est l'économie, la société, les travailleurs, les salariés qui sont sous la coupe de la finance. Et ça, évidemment, c'est inacceptable.
Alors, comment faire pour désarmer ces banques ? Ça passe par forcément une législation nationale, européenne, voire mondiale. Et comment est-ce que les citoyens peuvent faire pour faire pression pour que ça change ?
Alors, en effet, ça passe nécessairement par des décisions politiques qui aboutissent à des textes contraignants, donc des lois. En 1933, après la grande crise de 1929, l'administration Roosevelt avait passé une loi qui s'appelle le Glass-Steagall Act, qui avait justement coupé les banques en deux, séparé les banques de dépôt des banques d'investissement. Donc ça, c'était quelque chose qui avait été fait. Pourquoi aujourd'hui ne le referions-nous pas ? Évidemment, avec des modalités qui peuvent être différentes, parce que depuis, le monde a changé, mais le principe de base reste le même. Donc on voit que d'ailleurs l'administration américaine, l'administration Obama, a fait voter cet été, en juillet 2010, un texte qui s'appelle le Dodd-Frank Act, qui a des mesures qui vont un peu dans ce sens, mais qui sont totalement insuffisantes. Et quant à l'Europe, aucun pays européen n'a rien fait à ce sujet. Et donc là, on pense qu'il faut vraiment agir. Alors, comment faire ? Je pense que c'est un geste politique. On voit que nos gouvernements, le nôtre en particulier, en France, n'est pas prêt de bouger parce qu'à mon avis, à notre avis, la partie liée avec les milieux financiers, hein, il y a une espèce d'oligarchie politico-financière qui nous gouverne. On l'a bien vu, hein, les conflits d'intérêts, les liens très forts qui existent entre ces milieux. Et donc, ils ne bougeront pas. Les gouvernements sont sous la pression des élites financières, des lobbies financiers, et ne bougeront pas d'eux-mêmes. Et donc, il faut s'appuyer sur les citoyens et sur l'opinion. Et nous pensons que il y a eu une prise de conscience tout à fait importante de la part des citoyens, des usagers des banques, des salariés, du côté complètement scandaleux et abusif du comportement des banques qui nous ont amenés dans cette crise, hein, et que l'opinion est prête à soutenir, je crois, des mesures qui iraient dans le sens d'une réforme radicale, qui serait donc, par exemple, d'une part, de réduire la taille des banques, de supprimer ou de séparer les activités spéculatives par rapport aux activités normales, disons, de l'activité bancaire. Mais nous avons aussi une autre proposition qui est l'idée de socialiser les banques. Alors je m'explique, pour nous, l'activité bancaire, faire des crédits, créer de la monnaie, ça relève de l'intérêt général et de ce qu'on pourrait appeler aussi un service public. Et donc nous pensons qu'il ne faut plus que ce soit le capital et les actionnaires qui, dans une optique de pure rentabilité, gouvernent ces banques, mais qu'elles soient gouvernées, ces banques, par l'ensemble des parties prenantes, l'ensemble des acteurs qui sont intéressés par le bon fonctionnement des banques. C'est-à-dire que il y a les usagers, donc les entreprises, les ménages, il y a les salariés, il y a les pouvoirs publics, et il y a les apporteurs de capitaux aussi, mais ceci ne doit plus avoir la priorité absolue comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc, nous disons, il est temps de repenser la gouvernance, pour employer un mot à la mode, des banques, c'est-à-dire la manière dont elles sont dirigées, de manière à ce qu'encore une fois, elles soient vraiment gouverner dans l'intérêt général et non pas au profit d'une minorité qui s'en met plein la poche avec des bonus, des salaires absolument scandaleux et qui prend des risques, parfois mettant ses banques en danger.
Le fonctionnement bancaire que vous décrivez correspond actuellement à à l'activité, au fonctionnement de certains établissements bancaires, certes minoritaires, les établissements bancaires qui relèvent de l'économie sociale et solidaire.
Exactement. Alors, elle existe déjà en quelque sorte, ces banques qui se comportent d'une manière différente, qui ont une vision, qui sont alternatives en quelque sorte. Elles existent, le problème c'est qu'elles sont encore très minoritaires, leur poids dans l'économie est très faible, hein, mais ce sont en effet les banques coopératives, par exemple le Crédit Coopératif ou une institution comme la NEF, hein, la Nouvelle Économie Fraternelle, qui est petite, mais qui est en train de se développer très très rapidement, parce que justement, beaucoup d'usagers se tournent vers elle, parce qu'elle défend l'économie solidaire, elle défend des objectifs, après financer des projets sociaux, environnementaux, et elle n'a pas pour objectif d'obtenir une rentabilité maximum. Hein. Et ceci est quelque chose de très intéressant. Je crois qu'il faut encourager, il faut que les usagers se déplacent leur, s'ils peuvent le faire, hein, leur capitaux, s'ils en ont un peu de leurs économies, ou qu'ils ouvrent un compte dans ces banques, parce qu'elles sont garantes de cette vision alternative que nous défendons. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ATTAC, avec d'autres organisations comme les Amis de la Terre, est en train de lancer une campagne qu'on intitule changer les banques, changer de banque. Hein, changer de banque, qui va dans ce sens. C'est-à-dire qu'on veut essayer de créer un courant d'opinion et un mouvement pour faire pression justement sur les banques, pour que celles-ci se réforment et que se développe aussi le secteur coopératif et alternatif.
Dominique Plion, vous êtes aussi signataire du manifeste des économistes atterrés. Alors peut-être un mot sur ce manifeste et puis le sens de votre signature.
Alors ce manifeste, si vous voulez, vient de ce qu'un groupe d'économistes au départ, une dizaine disons, a été absolument atterré, c'est le mot, hein, c'est-à-dire en désaccord total avec les politiques qui sont menées à l'échelle européenne, qui tendent plutôt à aggraver la crise qu'à la résoudre. Par exemple, les politiques d'austérité menées dans presque tous les pays, il est évident que ça va conduire à la récession, au chômage de masse, et empêcher les pays de résoudre leurs problèmes de dette en particulier. Et donc on dit ça, c'est quelque chose qui est inacceptable. Et pourquoi est-ce que c'est fait? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est fait, ces politiques d'austérité, pour faire plaisir au marché, pour les rassurer. Et nous disons, ça c'est socialement totalement inacceptable parce que c'est évidemment les plus pauvres et les plus fragiles qui trinquent en premier et en plus économiquement inefficace parce que ça ne résoudra pas les problèmes notamment de déséquilibre de dette publique au sein de l'Europe. Et donc là-dessus on a des contre-propositions et dans notre manifeste est fait d'une vingtaine de propositions précisément pour essayer de dire voilà, il y a d'autres possibilités en Europe sans faire la révolution en changeant simplement la logique de la construction européenne qui a montré qu'elle était en plein échec, que la logique disons néolibérale et la domination des marchés a conduit l'Europe dans une impasse et qu'aujourd'hui il faut vraiment changer. Alors cette démarche a bien marché, a bien fonctionné parce que nous avons fait un texte qui est je crois assez clair et accessible à des non spécialistes nous avons fait un petit ouvrage qui a été vendu à 50 000 exemplaires donc qui marche très bien, qui est très lu par beaucoup de gens et nous avons maintenant l'ambition de faire un tour de France des économistes atterrés, c'est-à-dire que nous allons aller d'une ville à l'autre pour essayer d'organiser des débats et aider les citoyens à s'organiser, à prendre conscience et à dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette Europe. Donc nous sommes des Européens absolument convaincus, mais nous disons l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui est dans une impasse et même tente plutôt à aggraver la crise qu'à la résoudre.
Alors, dernière question, si vous le voulez bien, avant de venir à Arras pour cette conférence, vous étiez il n'y a pas si longtemps que ça à Dakar au forum social, donc au Sénégal. Quelques petits échos de ce forum social, comment ça s'est passé, qu'est-ce que vous en retenez?
Écoutez, de mon point de vue, ce forum a été un grand succès. Parce qu'il a permis, comme d'ailleurs les précédents, de rassembler des mouvements sociaux venant d'horizons extrêmement différents et de pays extrêmement différents, de toutes les régions du monde. Et ça, c'est quelque chose de très positif, parce que ça permet aux uns et aux autres de croiser leurs expériences, de voir comment ils peuvent tisser des liens entre eux pour être plus efficaces, pour améliorer leurs actions. Et je noterai qu'il y a eu deux ou trois ou quatre domaines dans lesquels nous avons fait des avancées lors du forum de Dakar. Le premier domaine, c'est celui des migrations, qui concerne plus particulièrement les populations des pays du Sud. Donc il y avait beaucoup d'Africains, évidemment, mais aussi de Latino-Américains, d'Asiatiques, et qui sont très concernés par ces questions. Une charte des migrants a été élaborée, qui prône la liberté de circulation des hommes et des femmes sur la planète, parce que ce monde est quand même tout à fait bizarre. On organise la liberté de circulation des marchandises et des capitaux, et par contre, on bloque la libre circulation des hommes et des femmes, alors que ceci est un droit reconnu par la Charte des droits de l'homme. Donc, si vous voulez, il y a quelque chose qui ne va pas là, dans le fonctionnement de la mondialisation de ce point de vue. La deuxième avancée, ça a été concernant les femmes. On a pu voir que les mouvements de femmes, en Afrique en particulier, mais dans d'autres régions du monde, comme l'Asie aussi, sont extrêmement puissants et organisés et jouent un rôle très important. D'ailleurs, ça montre bien le rôle essentiel des femmes dans nos sociétés, et dans ces sociétés-là en particulier. Et donc, les femmes prennent en main leur émancipation. Par exemple, par rapport à la question de leurs droits par rapport à la terre. Alors justement, ça amène à un troisième sujet qui a été beaucoup débattu, et là aussi il y a une avancée, c'est la question de l'appropriation des terres. Parce qu'on constate que dans le monde aujourd'hui, il y a un vrai problème de la propriété et d'usage des terres. Et vous savez qu'il y a des pays riches, ou qui sont en train de le devenir, comme la Chine, mais des pays riches comme l'Australie ou d'autres, qui achètent des terres en Afrique ou à Madagascar, les meilleures terres quelquefois, ce qui aboutit à expulser les populations locales d'ailleurs, ou à les rendre, à les paupériser. Et donc là, nous disons, là, halte, il y a un droit à la terre des populations locales. Et donc, la question de l'appropriation des terres est un autre sujet qui a été très largement débattu. Et enfin, le dernier sujet sur lequel j'ai eu l'impression qu'il y a eu des avancées, c'est les questions, bien sûr, écologiques. C'est-à-dire la prise de conscience qui est maintenant générale de tous les mouvements sociaux, que nous sommes dans un écosystème, nous sommes un élément majeur de cet écosystème, et que nous devons respecter cet écosystème, mais que ce respect de cet écosystème implique un changement radical de nos pratiques économiques et sociales. C'est-à-dire qu'il faut réorganiser la production, il faut réorganiser la consommation et il faut transformer aussi les relations sociales de manière à ce que tout le monde puisse profiter, de la nature et que d'autres d'autres, que certains n'aient pas plus d'avantages que d'autres à ce sujet, si vous voulez, qu'il n'y ait pas une appropriation par les pays les plus riches, par exemple, des ressources naturelles, au détriment des pays les plus pauvres, voilà. Donc là, il y a tout un travail qui est fait, et je pense que ce forum, de ce point de vue-là, a marqué une progression, voilà. Et pour terminer, bon, ce qui est formidable dans un forum social, c'est la démocratie. Qui s'y développe. C'est une démocratie qu'on appelle quelquefois démocratie participative, c'est-à-dire une forme tout à fait originale par rapport aux formes de démocratie auxquelles on est habitué, où les uns et les autres s'écoutent, se respectent, dialoguent, et vraiment on aboutit comme ça à des consensus sur un certain nombre de sujets. On arrive vraiment à progresser, et nous pensons que ça, c'est quelque chose qui est très porteur pour l'avenir, parce que la mondialisation que nous voulons, en quelque sorte, c'est une mondialisation qui est respectueuse des diversités. Il ne s'agit pas d'imposer un seul modèle, mais il faut s'écouter les uns les autres et voir ensuite quels sont les enjeux communs de l'humanité. Hein. Et là, je pense que les forums sociaux sont vraiment un moment privilégié pour cette prise de conscience et pour cette démocratie, hein, cette démocratie participative.